France Culture, les matins d'été, Guillaume Erner.
Et maintenant, nous allons évoquer la Biélorussie. J'ai sous les yeux le Figaro qui titre « L'Europe marche sur un fil de crainte de braquer Moscou ». Les élections présidentielles du 9 août, a déclaré la Commission européenne, n'ont été ni libres, je cite, ni équitables. Nous ne reconnaissons pas les résultats. Bonjour, Anna Colin-Lebedev.
Bonjour.
Vous êtes maître de conférence à Paris-Nanterre et spécialiste de l'Ukraine, de la Biélorussie et de la Russie post-soviétique. Cette déclaration des Européens, que peut-elle changer tout d'abord pour la Biélorussie, en Biélorussie et également pour Vladimir Poutine ?
Cette réaction est assez prudente, hein, même si les Européens sont allés aussi loin qu'ils le pouvaient dans la non-reconnaissance du résultat de ces élections. Elle a une valeur symbolique importante pour les protestataires eux-mêmes, qui ont besoin de ce soutien de la communauté internationale pour être, pour se sentir non pas abandonnés face au pouvoir de Loukachenko, mais avec les yeux de la communauté internationale braqués sur ce qui se passe en Biélorussie. Mais effectivement, comme vous le disiez en citant les titres du Figaro, eh bien il y a un risque et une crainte, hein, que partagent un certain nombre d'analystes, comme par exemple le chercheur Marc Galeotti, que une intervention trop poussée des Européens et de la communauté internationale n'envenime la situation en Biélorussie puisqu'elle ne contribue à la résoudre.
Et oui, parce que aujourd'hui, cette situation, elle se singularise par le fait qu'il y a bien évidemment une contestation du président dictateur Alexandre Loukachenko, mais il n'y a pas aujourd'hui véritablement de mouvement anti-russe là-bas, Anna Colin-Lebedev.
Oui, en effet. Je dirais même plus. On a eu tendance d'emblée à regarder les protestations biélorusses avec les lunettes de des mouvements révolutionnaires dans la zone qui ont eu lieu ces dernières années, et notamment de la révolution en Ukraine. Et donc à y chercher une dimension géopolitique, c'est-à-dire des citoyens qui chercheraient à regarder soit vers l'Ouest, vers l'Union européenne, soit vers l'Est, vers la Russie. Or, en fait, cette dimension géopolitique était totalement absente des protestations. Elle est toujours absente, même si elle commence à arriver un petit peu dans le débat. Et je dirais, c'est ce qui fait aussi sa spécificité. C'est vraiment un peuple qui se soulève contre un leader autoritaire qu'elle veut voir partir du pouvoir. Et elle peut être réglée aussi, voyez, sans forcément y ajouter cette dimension géopolitique qui, elle, en fait, fragiliserait les Biélorusses en les mettant, malgré certains d'entre eux, au centre d'un jeu géopolitique entre Est et Ouest qu'on pourrait imaginer.
Alors, l'Europe marche sur un fil, mais Moscou marche également sur un fil, même si ça n'est pas le même fil, Anna Colin-Lebedev.
Oui, en effet, la Biélorussie est stratégiquement très importante pour l'État russe. Non pas Alexandre Loukachenko lui-même, ce leader qui est en place depuis un quart de siècle, mais le pays. Le pays en tant qu'allié loyal, le pays en tant que zone tampon entre les pays de l'Union européenne et la Russie, entre les pays de l'OTAN et la Russie. La Fédération de Russie a perdu ces dernières années un certain nombre d'alliés dans la zone, à ses frontières. Je dirais que la Biélorussie, à ses frontières européennes, est le seul allié fidèle qui lui reste. Donc, il est extrêmement important pour les Russes de garder le contrôle sur ce qui se passe en Biélorussie. Ceci d'autant que, vous voyez, au-delà de la dimension contrôle et politique, les deux sociétés sont très imbriquées. Les liens économiques sont importants, les liens sociaux sont importants et la sympathie mutuelle est importante. Je pense qu'il faut le souligner également.
Oui, ce qui veut dire qu'en fait, il y aurait aujourd'hui peut-être une triple option. Alors, la première, c'est laisser un processus de démocratisation aller jusqu'à son terme avec le risque que Moscou perde son influence sur la Biélorussie. La seconde, soutenir Alexandre Loukachenko avec là aussi le risque d'une intervention russe sanglante, directe ou indirecte. Et puis, troisième option, choisir un autre Loukachenko.
Oui, et en fait, il peut y avoir un balancement entre différentes options. Laisser le changement se faire serait plutôt risqué pour Moscou, parce que le contrôle sur les acteurs politiques qui arriveraient au pouvoir après Loukachenko n'est pas certain, bien évidemment. Même si Moscou est en train justement de négocier, on peut être certain qu'en coulisses, il y a des jeux d'influence et des négociations qui sont en cours entre Moscou et Minsk, entre différents types d'acteurs. Laisser Loukachenko en place, soutenir Loukachenko, en effet, ça ne se fera pas sans des contreparties. Hein. Un certain nombre d'analystes soulignent que si Moscou accepte de soutenir Loukachenko d'une manière ou d'une autre, eh bien, ce serait au prix d'un approfondissement de l'intégration entre deux pays et donc d'une perte de souveraineté pour la Biélorussie. Et il faut se dire que dans les relations avec Moscou, Loukachenko s'est toujours attaché en étant justement tantôt agressif, tantôt amical, à préserver une marge de manœuvre et à préserver une souveraineté de son pays.
Ce qui pourrait expliquer
quelqu'un d'autre.
Pardonnez-moi, je vous ai coupé.
Je vous en prie. Non, mais je parlais de la troisième option, faire remplacer Alexandre Loukachenko par un autre acteur, hein, négocier une transition en coulisses. Bien évidemment, cette option n'est pas à exclure. Il est peu probable que le remplacement se fasse en faveur de la candidate Svetlana Tikhanovskaya. Hein, qui ne représente pas exactement ce que Moscou souhaite voir sans doute à Minsk, mais les options ne manquent pas.
Et si les options ne manquent pas, on dit là aussi, on peut le lire par exemple dans le Financial Times, que Vladimir Poutine n'est pas forcément épris d'Alexandre Loukachenko et qu'il n'est absolument pas prêt à tout faire pour sauver le pouvoir de cet homme.
Oui, il n'est sans doute pas prêt à tout faire. En tout cas, à ce jour, il ne semble pas prêt, par exemple, à intervenir militairement, en dépit de la communication très intense d'Alexandre Loukachenko en ce moment sur l'ingérence externe. Après avoir dit pendant les premières journées de la protestation que les protestataires étaient des marginaux, des alcooliques, des anciens criminels, etc., aujourd'hui le discours a changé. Alexandre Loukachenko insiste énormément sur le financement et l'organisation qui viendrait de l'étranger et qui viendrait de l'Europe. Hein. On a vu récemment un film de propagande à la télévision biélorusse, à la télévision d'État biélorusse, montrant en fait une Biélorussie pacifique qui est celle d'aujourd'hui, détruite, réduite en ruine, avec des drapeaux américains, avec des forces extérieures qui la gouvernent. Alexandre Loukachenko cherche à vendre ce message à Vladimir Poutine et à la communauté internationale et également à son électorat. À une partie du peuple. Bon, pour l'instant, vous voyez, Moscou n'est pas réceptif à ce genre d'argument.
On a affaire à une protestation contre une dictature, et là aussi, dans le Financial Times du jour, on voit que la Biélorussie est très mal notée du point de vue de la corruption, du point de vue de la capacité de ses opposants à évoquer une alternative à Loukachenko. Finalement, la seule chose qui semble durer en Biélorussie, c'est la stabilité politique, explique le Financial Times, ce qui veut dire que le pouvoir de Loukachenko n'est pas réformable, selon vous, Anna Colin-Lebedev.
Alors, je pense qu'il faut véritablement nuancer cette vision. En regardant la Biélorussie, on s'attache effectivement, vu des pays d'Europe notamment, mais également des États-Unis, aux indicateurs des libertés publiques qui sont effectivement très au rouge, aux indicateurs de la corruption, dans les sphères de l'État, qui sont effectivement au rouge également. Mais je dirais, aucun pouvoir ne tient uniquement sur la répression pendant un quart de siècle. Et en l'occurrence, le pouvoir d'Alexandre Loukachenko a bénéficié d'une certaine légitimité pendant de longues années. Et également, on pourrait dire en fait que, vous voyez, dans ce système construit par Loukachenko, il y a des éléments auxquels les Biélorusses tiennent. Et qui explique par exemple qu'aujourd'hui, eh bien, un certain nombre de Biélorusses soient effrayés d'un changement potentiel, au-delà même de la propagande d'une intervention américaine. Ce qu'on sait moins, vous voyez, du fonctionnement de la société biélorusse, c'est que par des moyens autoritaires, certes, le pouvoir a réussi à construire un État social, ou à maintenir un état social tel qu'il existait à l'époque soviétique, avec des services publics très présents, avec un tissu industriel maintenu et développé, avec un maintien de l'emploi, hein, un attachement à maintenir l'emploi, avec une volonté de faire augmenter les salaires dans les faibles capacités de l'État biélorusse, mais néanmoins les salaires étaient, on va dire, équivalents à ceux des autres pays de la zone, avec un attachement au développement rural, et, à la santé publique, etc., etc. Donc autant d'indicateurs qui ne rentrent pas dans les indicateurs des libertés publiques et qui néanmoins, pour un certain nombre de citoyens, dans leur vie quotidienne, ont compté pendant ces 25 ans.
Mais dans le même temps, Anna Colin-Lebedev, on explique que l'économie biélorusse est une fiction, c'est-à-dire qu'elle est soutenue à bout de bras par Moscou.
L'économie biélorusse est effectivement extrêmement dépendante de la Russie. Alors, elle est dépendante d'une manière, on va dire, plus classique en termes de débouchés et de marchés. Hein. La Russie est le principal pays où les Biélorusses exportent leurs produits. Mais effectivement, il y a également des subventions directes et indirectes de l'État russe à l'économie biélorusse. Alors, il y a des prêts bancaires, etc., un certain nombre d'aides financières, mais il y a eu également beaucoup plus systématiquement sur ces dernières décennies, le bénéfice que tirait Minsk du raffinement et de la revente du pétrole qu'elle achetait à la Russie à un coût très bas et qu'elle revendait, raffiné ou non, en Europe au prix du marché en se gardant la marge. Donc effectivement, c'est une fragilité de l'économie biélorusse, c'est-à-dire que le système s'est maintenu parce qu'il était subventionné, et lorsqu'il a été moins subventionné, eh bien l'économie a lentement décliné, les services publics ont décliné également, le bien-être de la population également, et ça explique tout autant que la répression et le manque de liberté politique, la contestation actuelle.
Oui, et du coup, il y a des exportations qui sont principalement des exportations de façades qui sont rachetées par Moscou pour faire croire là aussi qu'il existe une économie et des biens en Biélorussie susceptibles d'être exportés, des tracteurs, des machines-outils et des choses de ce type qui permettent malgré tout de contrebalancer les importations. Biélorussie n'est peut-être pas inutile, Anna Colin-Lebedev, d'expliquer quelle histoire a la Biélorussie, histoire pendant la Seconde Guerre mondiale, aux côtés de l'Ukraine, cela a été la principale région touchée par l'offensive nazie, et puis plus largement historiquement, comment la Biélorussie a été considérée comme une partie intégrante de la Russie.
Oui, bien évidemment. Alors avant de revenir à cela, permettez-moi juste de réagir à votre au début de votre remarque. Économie de façade, exportation de façade, je pense qu'il faut vraiment nuancer cela. La Biélorussie a été l'un des rares pays de la zone à maintenir un tissu industriel diversifié. Vous voyez, pour être caricatural, les Biélorusses produisent des tracteurs, des camions, des casseroles, des frigos, des vêtements, de l'agroalimentaire. Aujourd'hui, quand avec la crise du Covid, on s'est posé la question, par exemple, de la sécurité de nos approvisionnements, ces dernières années, lorsqu'en France, on se pose la question de que font les délocalisations massives, vous voyez, à notre mode de vie et à notre tissu productif, eh bien la Biélorussie est un éclairage qu'on a du mal à regarder parce que c'est un État autoritaire, mais regardons-le quand même. Je veux dire, dans ce bilan, on a l'un des rares pays d'Europe à avoir maintenu des compétences, des savoir-faire, des productions sur place. Certes, pas d'une grande innovation, même si la Biélorussie a un secteur informatique important, mais vous voyez, aujourd'hui c'est très difficile de donner une dimension positive au bilan de Loukachenko dans la mesure où la dimension autoritaire est très très importante, mais dans 20 ans, quand on regardera le bilan biélorusse, on le regardera peut-être d'une autre manière. Voilà.
Alors maintenant que vous avez nuancé ces propos sur effectivement la qualité des tracteurs biélorusses, Anna Colin-Lebedev, sur l'histoire de la Biélorussie, parce que il faut rappeler aux auditeurs, parfois en France, on ne sait pas très bien ce qu'a été la guerre à l'Est, ce qu'a été la Seconde Guerre mondiale à l'Est, c'est-à-dire principalement en Ukraine, en Biélorussie, dans ces terres qui ont été particulièrement frappées par les nazis. Expliquer en quoi cela explique l'après-guerre, et puis aussi comment on distingue la Russie blanche, la Biélorussie et la petite Russie, l'Ukraine. Bref, comment cet ensemble peut être pris de conserve pour être compris.
Alors, grand programme pour une petite intervention, mais j'essaye quand même. Alors, effectivement, lorsque l'invasion nazie commence en 1941, c'est par la Biélorussie qu'elle commence, hein, par une attaque sur Brest-Litovsk. Et la Biélorussie et l'Ukraine sont qualifiées de terre de sang par l'historien Timothy Snyder, parce que justement, eh bien, la guerre a eu un coût humain particulièrement important dans ces régions. L'Holocauste, une grande partie de l'Holocauste s'est déroulée effectivement sur les terres biélorusses, mais aussi sur les terres ukrainiennes et lituaniennes. Donc le traumatisme de la Deuxième Guerre mondiale, vous voyez, de cette première phase extrêmement écrasante, est extrêmement important pour les Biélorusses. Et cette mémoire de la Deuxième Guerre mondiale est toujours utilisée aujourd'hui, hein, et certes le pouvoir s'appuie là-dessus, mais aussi par exemple lorsque les forces de l'ordre répriment les manifestants très violemment à Minsk il y a quelques jours, eh bien on entend des commentateurs dire, eh bien ce ne sont plus des policiers qui nous protègent, ce sont des bouchers, comme étaient les, est-ce qu'on est en train de revivre la Deuxième Guerre mondiale avec des bouchers nazis qui exterminent la population. Vous voyez, cette rhétorique est extrêmement importante encore, enfin cette référence est très importante encore pour les Biélorusses. Alors, la Biélorussie était effectivement l'une des républiques socialistes soviétiques, tout comme l'Ukraine, des constructions à la fois reposant sur des entités préexistantes, mais aussi construites un petit peu artificiellement par la politique des nationalités soviétiques. Alors, Russie blanche est une traduction un peu mauvaise, hein. D'ailleurs, vous savez qu'il y a une hésitation entre les termes de Biélorussie et de Bélarus. Le terme de Bélarus permet de rendre davantage justice à l'origine du nom de Biélorussie, c'est-à-dire ce n'est pas la Russie blanche, c'est davantage une référence au ruten, hein, et à la blancheur serait plus ruten que russe, comme on a dit par exemple pour comme on a parlé pour l'Ukraine mais là on rentre dans la technique de la Rousse de Kiev plutôt que de la Russie de Kiev. Donc tout ça pour vous dire que effectivement on est dans un pays qui a une histoire entre des puissances, toujours tiraillé entre différentes puissances, l'Empire russe, le Grand-Duché de Pologne-Lituanie, l'Union soviétique, vous voyez, l'influence de la Pologne va être extrêmement importante, une partie va être annexée à la Pologne, la Biélorussie est au centre du continent européen et balançant entre différentes puissances et au centre des grands conflits et des grandes zones de violence.
Et oui, mais c'est aussi essentiel, Anna Colin-Lebedev, pour comprendre dans quelle mesure le destin de la Biélorussie est indissociable du destin russe.
Oui, il est certain que c'est un pays qui a des liens très 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 étroits avec la Russie, mais qui ont aussi été construits et consolidés, je dirais, par le pouvoir de Loukachenko.
Hein. Qu'est-ce qui peut
c'est
se passer?
Le choix d'Alexandre Loukachenko de se tourner vers la Russie qui a construit cette proximité, vous voyez, qui s'est façonnée de manière complètement différente en Ukraine.
Alors justement, si aujourd'hui il y avait ou bien des élections libres ou bien un autre personnage à la tête de l'État, qu'est-ce qui pourrait advenir? Est-ce qu'on peut imaginer que ces liens avec la Russie pourraient se distendre avec le regard de Vladimir Poutine sur ce voisin qui prendrait un peu d'autonomie?
À ce jour, les membres du Conseil de coordination de l'opposition, donc qui représentent la candidate Tikhanovskaya et qui représentent le mouvement d'opposition, ont bien fait comprendre qu'il n'y avait aucune volonté d'éloignement de la Biélorussie de la Russie dans leur projet politique. Donc je pense qu'il faut le souligner, hein, aujourd'hui, la protestation n'est pas anti-russe. La protestation ne cherche pas à s'éloigner de la Russie. D'ailleurs, ce serait, vous voyez, stratégiquement extrêmement dangereux pour les Biélorusses, si l'opposition gagne et arrive au pouvoir, ce serait stratégiquement très dangereux d'opérer un éloignement pour des raisons objectives, hein, l'interdépendance des économies, mais aussi pour des raisons politiques, bien évidemment.
Merci Anna Colin-Lebedev de nous avoir éclairé sur la Biélorussie. On se retrouve dans une vingtaine de minutes en votre compagnie. Je rappelle que vous êtes maître de conférence à Paris-Nanterre, spécialiste de l'Ukraine, de la Biélorussie et de la Russie post-soviétique. Nous entendrons également les commentaires d'Ina Shevchenko, activiste, journaliste, fémène. Ina Shevchenko nous donnera son point de vue sur la situation en Biélorussie.
France Culture, les matins d'été.
Et l'on évoque la situation en Biélorussie avec le pouvoir contesté du président dictateur Alexandre Loukachenko. Nous sommes en compagnie de l'universitaire Anna Colin-Lebedev et nous accueillons la journaliste activité féminine Ina Chevechenko. Bonjour.
Bonjour, bonjour Kéon.
Vous avez beaucoup suivi à la fois la situation en Russie, en Ukraine, puisque vous êtes ukrainienne, Ina Chevechenko. Quelles sont les similitudes et également les différences qu'il y a entre la situation en Ukraine et celle que vous connaissez en Biélorussie?
Maintenant, les manifestations ont lieu en Biélorussie depuis 10 jours. Et nous pouvons dire maintenant que ce mouvement de protestation en Biélorussie contre Loukachenko est en effet unique, en effet assez différent. Et j'ai entendu de nombreux journalistes étrangers justement comparer les protestations en Biélorussie à la révolution en Ukraine en 2014, la révolution connue comme Maïdan. Il y a beaucoup de similitudes, bien sûr, entre les pays, entre les contextes aussi politiques dans les pays. Mais il y a des différences très importantes qui sont encore plus importantes que les similitudes. D'abord, il n'est pas question de division de la société biélorusse, des divisions avec des sentiments pro-russes ou des sentiments pro-l'Union européenne ou pro-l'Ouest. Il n'y a en effet aucune division entre la société. Il y a une division entre Loukachenko, l'homme au pouvoir, et la nation entière. Donc c'est très important. Et il y a aussi ce qui est, je pense, très important de souligner qu'il n'y a pas de question d'identité dans ce conflit. Comme en Ukraine, il y avait justement cette question, il y avait cette question et cette polémique avec beaucoup de paroles, de langage, des politiques d'identité. Il ne s'agit pas d'un problème d'identité en Biélorussie. Encore une fois, il s'agit de se battre pour le peuple en Biélorussie. Il s'agit de se battre pour ce droit de pouvoir choisir le gouvernement, le président qu'ils veulent, d'avoir cette liberté fondamentale. Il ne s'agit pas donc de problèmes, de questions géopolitiques. Encore une fois, il s'agit de liberté fondamentale, des droits d'avoir des élections libres et équitables. Et bien sûr, le rôle de la Russie est très très important, une question très importante parce qu'il est très différent de celui comme en Ukraine en 2014. Encore une fois, il n'y a pas de sentiment pro-russe exprimé par les Biélorusses, par le peuple biélorusse. Et donc, il n'y a pas de ce sentiment pro-russe que le Kremlin peut manipuler par ses chaînes de propagande et utiliser pour déclencher une autre guerre hybride comme en Ukraine. Et donc, nous voyons Poutine. Il tente de jouer un rôle déjà dans la situation en Biélorussie. Nous voyons Loukachenko qui demande Poutine de lui aider, de justement jouer un rôle important dans ce conflit entre Loukachenko et toute la nation entière, je répète. Et aussi nous voyons, je suis quand même assez dérangée par ce fait, nous voyons les dirigeants de l'Union européenne qui appelle Poutine pour décider du destin de Biélorussie, mais nous voyons en même temps aussi que le peuple montre cependant que le combat est extrêmement différent, la question est très différente de celui en Ukraine, et nous voyons comment ce mouvement est justement unique et même exemplaire en bien des égards, parce que nous voyons les tactiques sont très différentes. Ce mouvement est non violent, il est auto-organisé, il n'y a pas de couleur politique, il n'y a pas de drapeau. Si vous pouvez trouver un seul drapeau, c'est celui de Biélorussie, de la République biélorusse utilisé avant le régime de Loukachenko. Si vous pouvez trouver des slogans dans la foule, c'est les slogans qui demandent des élections libres et équitables et la démission de Loukachenko.
Il y a un point sur lequel vous avez insisté, Ina Shevchenko. Vous suivez notamment la situation là-bas pour le journal Charlie Hebdo. Vous avez insisté sur l'aspect féminin du soulèvement, et d'abord parce que l'opposante principale à Alexandre Loukachenko, Svetlana Tikhanovskaya, est une femme. Est-ce que vous pouvez nous la présenter en quelques mots, Ina Shevchenko ?
Alors oui, d'abord, Svetlana Tikhanovskaya n'était pas connue en Biélorussie avant ces élections. Et si elle a décidé de se présenter, c'est parce que son mari, Sergei Tikhanovskaya, qui était le candidat opposant à Loukachenko, il était arrêté, emprisonné 2 mois avant les élections présidentielles, comme d'autres candidats aussi. Et Svetlana a décidé de se présenter. Elle a dit qu'elle n'était pas intéressée par le pouvoir politique. Elle a répété plusieurs fois, à plusieurs reprises, mais elle voulait néanmoins participer aux élections pour permettre justement le changement du régime de Loukachenko. Et ce qui est quand même assez incroyable, c'est que cette décision-là de Svetlana a changé le contexte politique en Biélorussie, et déjà nous pouvons dire qu'a donné justement cette possibilité de changer le régime de Loukachenko, parce que Loukachenko ne l'a pas mis en prison comme d'autres opposants. C'est parce qu'il ne l'a pas pris au sérieux, en fait. Il a répété aussi qu'il peut pas prendre Svetlana Tikhanovskaya comme un opposant sérieux parce qu'elle est une femme. Il a déclaré aussi une fois que la constitution de Biélorussie n'est pas faite pour une femme dirigeante, et qu'une femme s'effondrera si elle devait diriger ce pays. Et donc je peux même dire que Loukachenko, par tout cela, il a fait beaucoup pour mobiliser les femmes en Biélorussie. Il a fait quelque chose d'assez important pour, si vous voulez, pour féminisme en Biélorussie. Donc nous voyons aujourd'hui que ce fait le plus incroyable, c'est que les femmes de Biélorussie sont au cœur et au premier plan de ces événements. Il y a Svetlana Tikhanovskaya, il y a aussi, elle a gagné les élections de facto, elle a gagné des élections avec ce trio féminin d'opposition, donc Svetlana Tikhanovskaya ensemble avec 2 autres femmes, Maria Kolesnikova et Victoria Tsepkalo. Donc c'est 3 femmes qui ont été le visage et les acteurs principaux d'opposition. Et quand Svetlana a dû partir du pays, fuir le pays, c'est les femmes biélorusses qui ont pris
l'ascendant
la rue, et bien sûr elles ont fait face aux policiers, aux forces spéciales KGB qu'on appelle Alpha, qui battent les gens, qui torturent les gens dans les centres de détention. Et ces femmes-là ont marché face aux ces hommes violents avec des fleurs pour montrer leur désaccord, le désaccord de la population féminine de ce pays avec le régime.
Anna Colin-Lebedev, qu'est-ce que ça révèle sur la société aujourd'hui, la société biélorusse?
La société biélorusse est très en avance sur son leader politique. Je pense que, enfin, sur son leader politique, sur son président sortant, on va dire. On a vu vraiment se cristalliser ce décalage, je dirais presque générationnel, entre Loukachenko et son peuple. Et générationnel n'est pas seulement en termes d'âge, dans ces élections et dans les manifestations. Mais également, par exemple, lors de la gestion par Loukachenko de la crise du Covid-19. C'est-à-dire que c'est à ce moment-là que beaucoup de Biélorusses ont pris conscience que le président Loukachenko était d'une autre époque, qu'il pouvait être ignorant, qu'il pouvait être en retard, qu'il pouvait être inadaptable, peu souple, voilà. Donc il y a des choses qui ont sauté aux yeux. C'est intéressant également de voir, vous voyez, on a dit le peuple biélorusse pendant longtemps, on va dire, passif, soumis à un pouvoir autoritaire, il faut toujours être prudent avec ces qualificatifs, hein, et regarder en fait la nature et les raisons pour lesquelles une population se soumet ou se révolte. Aujourd'hui, les Biélorusses se sont révoltés bien plus massivement que ne l'ont fait d'autres populations dans d'autres pays de l'Union européenne, parce que les conditions étaient réunies pour cela.
Un mot de conclusion, Ina Shevchenko, sur ce qui peut aujourd'hui se dérouler en Biélorussie.
Alors, je voudrais justement souligner que ce n'est pas un mouvement contre Loukachenko. Il ne s'agit pas d'une partie de population qui se soulève contre le pouvoir politique. C'est toute une nation contre le dictateur Loukachenko. Je voudrais aussi souligner que les tactiques utilisées par les manifestants sont vraiment, ils savent maintenant comment ils peuvent déstabiliser ce régime. Mm-hmm. Les gens ont appris à se battre contre Loukachenko au cours des 26 dernières années. Ils savent aujourd'hui que c'est avec la non-violence, avec auto-organisation et solidarité dans la rue qu'ils peuvent faire face à ce régime. Bien sûr, nous pouvons attendre que Loukachenko va se battre contre son peuple. Il a montré déjà d'ailleurs, parce que nous voyons comment nous entendons beaucoup de témoignages des gens qui ont été torturés, violés, les hommes et les femmes dans les centres de détention. Maintenant, nous connaissons que au moins 3 personnes ont mort pendant les manifestations. Nous voyons aussi que beaucoup de journalistes locales, mais aussi étrangères, sont disparus. Donc, nous voyons que Loukachenko ne veut pas entendre son peuple et justement laisser le pouvoir. Nous pouvons bien sûr compter qu'il va se battre, mais je pense que maintenant le peuple biélorusse a montré au monde entier que eux aussi ils vont se battre, et eux aussi ils vont pas laisser Loukachenko continuer à détruire leur vie.
Merci beaucoup Ina Shevchenko. On vous retrouve notamment dans les colonnes de Charlie Hebdo. Merci beaucoup Anna Colin-Lebedev pour nous avoir éclairé sur la situation en Biélorussie. Il est 8h32 sur France Culture, suite des matins.